Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und élégant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus bloß. Ich will dich bloß.
Und Femme. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Et nous nous retrouvons aujourd'hui eh bien, pour nous remettre dans l'ambiance de l'Afrique. L'Afrique au rythme du festival de cinéma Black Movie à Genève et en l'occurrence une rencontre très particulière, une rencontre intime qui n'a pas forcément trait au cinéma lui-même africain, mais qui est le portrait d'une femme qui a participé à beaucoup de ses films par un biais tout à fait particulier, celui du costume. Cette femme, c'est Oumoussi, mais nous l'entendrons tout à l'heure. Je l'ai rencontrée hier alors qu'elle était en plein travail. Ce sera notre rencontre principale pour aujourd'hui dans Remue Ménage. Mais tout de suite, eh bien, la semaine passée, j'avais rencontré Katharina von Flotow, qui est la responsable de la programmation du festival Black Movie, qui, je vous rappelle, a lieu encore jusqu'au 10 décembre prochain, et ceci à la Maison de Saint-Gervais à Genève, 5 rue du Temple, que tous les soirs, il y a des films qui vous sont montrés, une programmation à 17h15, une à 19h, une à 21h et beaucoup de soirées fameuses pour partager non seulement les images mais aussi la joie d'être ensemble et entre autres souvent tous les soirs programmées au Moulin à Danse de Genève, les Nuits Blanches du Moulin à Danse avec plein de musique. Je vous reparlerai de ce programme tout à l'heure. Mais pour l'instant, eh bien, juste encore quelques mots avec Katharina von Flotow, qui est, donc, je vous le disais, la responsable de la programmation du festival. Elle appartient bien sûr aussi à l'association qui, dans son ensemble, soutient le travail de Black Movie. Et j'avais envie de lui demander quand même comment en était-elle arrivée à s'intéresser au cinéma africain, alors qu'elle vit à Genève, comment elle s'est mise à suivre les différents festivals de cinéma en Afrique, comme celui de Carthage en Tunisie qui vient de se terminer, celui de Ouagadougou. Et puis décider enfin de mettre sur pied un festival pour faire connaître le cinéma africain à Genève. Katharina von Flotow.
Oui, alors j'ai travaillé en Afrique. C'est ça, principalement. J'ai travaillé plusieurs années à la suite pour UNESCO en Afrique de l'Ouest, en Éthiopie aussi, et j'ai rencontré des gens avec qui j'avais beaucoup de plaisir à être. Et j'ai travaillé dans le domaine culturel, et j'ai travaillé à la télévision, et j'ai rencontré les réalisateurs. Et je me suis dit, on ne voit pas le travail à Genève. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et quelque part, c'était difficile. Et puis, il fallait le réussir. Et ce n'est pas toujours réussi. C'est difficile parce qu'on se bat pour les subventions. On doit convaincre les autorités que c'est bien. Enfin. Mais maintenant, c'est quelque part un festival que les gens connaissent, où ils viennent, où il y a du plaisir, parce qu'on essaie de faire qu'il y a des rencontres. Et puis de la musique et du plaisir qui se joint, que c'est la fête. Donc, mais moi, je viens plutôt du domaine cinéma. C'est pour ça que je reste dans la programmation cinéma. Mais on s'est joint à d'autres personnes, donc les gens qui connaissent la musique, les gens qui sont plus dans la photographie, les gens qui travaillent autour du théâtre. Donc, on est ouvert aux gens qui veulent venir travailler avec nous.
Mais le point commun de tous ces gens, c'est en général qu'ils ont eu une fois un contact très fort avec l'Afrique. Il faut avoir une fois été là-bas pour se dire « ça vaut la peine d'en parler ici ».
Je pense, peut-être. Il y a aussi les Africains qui sont dans l'association, qui ont la nostalgie et l'envie de faire partager leur culture, de l'amener ici. Donc, qui sont très intéressés à faire que le festival marche. Notre public, en partie, est africain. Je dirais 50% même, peut-être. C'est des internationaux. Il y a beaucoup d'associations africaines. Mais c'est plus large que ça. C'est aussi des cinéphiles, les gens qui sont intéressés en général, qu'est-ce qui se passe culturellement. Donc, c'est difficile à définir. Mais je ne sais pas. Il ne faut pas forcément partir en Afrique pour revenir et pour venir à un festival africain. Il faut... faut avoir envie de découvrir, moi je pense, découvrir d'autres cultures du monde. Eh bien, ceci est le bruit de répétition que vous auriez pu entendre si vous aviez été avec moi hier après-midi au Moulin à Danse, où l'on prépare un spectacle qui est inclus dans le festival Black Movie. Ce spectacle, c'est le Congrès des Griots à Cancan. Cancan, c'est en Guinée. Mais ce que vous verrez, c'est un spectacle de théâtre, de musique, de danse, et qui a la volonté de réunir des gens du Nord et du Sud pour parler de la tradition et de la modernité. En l'occurrence, un spectacle qui a pour trame ce point de départ. Il y a un congrès des griots. Les griots, on dit d'eux que lorsque l'un d'eux disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est la voix de la parole, c'est la voix de la tradition, de l'histoire, et puis de tout ce qui n'a jamais été écrit en Afrique. Et alors, à ce congrès des griots intervient tout à coup un jeune homme cinéaste, et qui, bien que normalement on ne voulait pas le laisser rentrer parce qu'on ne voulait pas de journaliste dans ce congrès, va finalement arriver à persuader un des griots, le président, le chef des griots, qu'il faut qu'il lui parle parce que c'est peut-être le dernier moment, justement, avant que la bibliothèque ne brûle. Et puis parce que peut-être le cinéma, eh bien, c'est le griot de demain. Voilà la trame de ce spectacle. Alors, pourquoi avoir été à cette répétition? Ce n'est pas tant pour vous parler du spectacle, quoique j'aurais pu le faire, puisqu'il est mis en scène par une femme de Genève, française d'origine, qui s'appelle Claire Talia. Et puis il y a la participation de nombreuses personnes, des musiciens africains, des danseuses et d'Afrique, mais aussi d'ici, et des musiciens aussi d'ici d'ailleurs. C'est un grand mélange de gens du Nord et de gens du Sud. Donc spectacle que vous pourrez découvrir à partir du vendredi 2 décembre au Moulin à Danse. Voilà. Mais pourquoi donc je suis allée là-bas? Eh bien, c'est surtout pour aller y trouver, y rencontrer Oumoussi. Oumoussi, je vous le disais en tout début de cette émission, elle est sénégalaise et elle est surtout costumière styliste. Peut-être l'avez-vous croisée déjà l'année passée si vous êtes allé suivre les films du festival Black Movie, parce qu'elle était déjà là. C'est une femme magnifique, elle est d'origine de l'ethnie Peul. Ce sont des personnes avec un physique qui dégage la noblesse, elle vous en parlera, mais ça se voit déjà à l'extérieur sans même rien savoir de sa vie. Elle a des vêtements superbes, alors même si on ne sait pas qu'elle est costumière ou styliste, en tout cas on se dit, mais cette femme, elle porte des vêtements incroyables. Elle a souvent des chapeaux incroyables aussi, et des coiffures incroyables aussi. Et eh bien, cette année, elle est venue durant Black Movie pour faire les costumes du spectacle, le congrès des griots à Cancan.
Mais elle a aussi fait souvent des spectacles pour des costumes pour des spectacles de théâtre. Elle a beaucoup travaillé pour le cinéma africain, pour les femmes en général, puisqu'elle fait, elle coud et crée des costumes pour n'importe quelle femme. Les films auxquels elle a participé, peut-être en avez-vous vu deux les deux auxquels elle a participé principalement, c'est le film Yen, qui raconte la visite de la vieille dame de Duren-Matt, mais qui se passe en Afrique. Et puis c'est le film d'Idrissa Ouedraogo, Gaston Traoré. Alors, j'avais très très envie de la rencontrer. Elle est en plus spécialiste des teintures. Elle fait elle-même ses teintures. Elle fait elle-même souvent les tissages des tissus qu'elle emploie. Elle fait aussi des maquillages. Elle fait aussi des coiffes, des chapeaux, comme je vous le disais, et des coiffures. Alors, rencontrer ce personnage que vous pouvez croiser tous les jours à Saint-Gervais, soit dans les couloirs, soit lors des visionnements, puisqu'elle vient voir elle aussi les films, eh bien, moi, je l'ai tiré de sa répétition et je l'ai rencontré pour qu'elle nous parle. Et vous allez voir que c'est une rencontre très intime, en quelque sorte, qu'a accepté de faire avec nous Oumoussi. Et pour cela, je le remercie beaucoup. C'est un peu un parcours de vie qu'elle nous fait partager et je crois que c'est un très grand cadeau. Parcours de vie qui nous permet de découvrir quelle est la vie des femmes en Afrique aujourd'hui et en particulier une femme qui a une histoire très spéciale puisqu'elle est en quelque sorte partagée en deux. Son origine du nord du Sénégal, d'une tribu nomade et un mélange avec l'origine d'une autre tribu dans le sud, la Casamance. Elle vous explique tout ça. Oumoussi.
J'ai demandé à Oumou si elle était d'accord, en quelque sorte, pour nous parler de son travail personnel, de nous parler un petit peu de son histoire à elle. Parce que être femme africaine et sénégalaise, puisque Oumou est d'origine du Sénégal, et puis aujourd'hui être styliste renommée, avoir participé à la création de nombreux costumes pour de nombreux cinéastes africains, comment on y arrive, comment ça se passe? Alors Oumou, est-ce qu'on peut dire ça a commencé par? Est-ce qu'il y a quelque chose qui marque le début de ton histoire?
Enfin, les débuts, il y en a beaucoup, on ne sait pas lequel choisir, c'est difficile. Bon, moi je suis d'une famille très 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 attachée à la religion. Du côté, on commence d'abord par le côté maternel, parce que moi je tiens tellement à relever d'abord les femmes et les autres après.
Quand tu dis ma famille très attachée à la religion, c'est la religion musulmane?
Oui, parce que ma maman, elle descend du prophète. Elle est shérif, elle est Aïdara, elle est petite fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si je sais bien prononcer l'arabe, parce que je n'ai pas beaucoup appris l'arabe, parce que j'ai appris juste ce qu'il faut pour prier. Et voilà, contraire à ce qu'il voulait ma famille, déjà. Et du côté paternel, je suis une scie. Je suis de la famille scie. C'est la famille scie qui représente le Tariqa Tijaniya en Afrique noire. Et on est des musulmans et très, 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 très attachés à la religion parce que c'est une famille qui a converti beaucoup, beaucoup d'animistes. Et voilà, je viens de cette famille-là. Et maintenant, moi, comme je suis très attachée à mon art, quelle honte pour la famille. Mais moi, j'ai choisi l'art. Bon, ça a été très difficile, mais quand même, le choix, il est fait. Parce que déjà, à ma naissance, j'ai été mariée déjà par trois hommes. Parce que le jour du baptême, on te met... Chaque cousin, il y a la tante qui arrive, qui met le chiffon, qui dit, si elle vit, je la prendrai pour mon fils. Alors le fils déjà, peut-être qu'il a 10 ans de plus que toi ou 20 ans de plus que toi, mais quand même, c'est un honneur pour la famille que le jour de ton baptême, déjà que tu sois choisi pour être marié par telle ou telle personne. C'est déjà un grand honneur. Et alors moi, c'est tous ces trois-là, je n'ai pas pu les accepter, malheureusement, pour ma famille, et heureusement pour moi, parce que je n'avais pas la tête à ça. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans, et ma maman m'a amenée chez ma grand-mère en Casamance. Ma mère n'était pas tout couleur, elle est métissée de peul et de shérif. Et elle, son père est métissé de peul et de shérif. Et sa mère est soninké d'une autre race encore fière, qui est d'une race nomade, parce que les soninké, c'est les doulas, c'est les nomades. Et c'est une culture un peu différente du Fouta. parce que...
Peut-être, Oumu, c'est important d'expliquer un petit peu le poids, l'importance de toutes ces ethnies dans ta vie, parce que les gens connaissent très mal ici les ethnies africaines, et en particulier qu'on retrouve au Sénégal. Alors, quelle importance ça a de préciser chaque fois l'ethnie d'origine des gens?
Parce que, enfin, vous, c'est vrai que vous ne comprenez pas ça. Mais c'est très important chez nous quand tu dis le nom de famille de quelqu'un pour savoir d'où il vient. Parce que quand on dit Soninké, on sait que c'est une famille très noble. C'est pas des esclaves ni des griots. C'est des familles nobles qui ont leurs griots, qui ont leurs esclaves. C'est pas comme les esclaves américains. Hein, mais des esclaves qui sont là, c'est parce qu'ils avaient des problèmes. Bon, la famille a donné de l'argent. Ils ont réglé ces problèmes, ou bien ils avaient des problèmes de nourriture, on les a donné des champs pour cultiver. À la place, maintenant, ils travaillent pour cette famille. Bon, c'est pas vraiment des esclaves, vraiment esclaves, quoi. Alors, moi, j'ai eu la chance quand même d'être née dans une famille où on est vraiment des nobles, quoi. Pas la noblesse européenne, mais des gens qui ne sont pas castés, on n'est pas castés.
Ça veut dire quoi, ça?
Casté, c'est d'être griot, ou d'être forgeron, ou d'être tisserand, ou d'être... Parce que casté, c'est le fait d'avoir un autre métier qui n'est pas rester là, avoir tout, et que les gens viennent te chanter les louanges que tu donnes, c'est que tu n'es pas casté. Mais ceux qui sont castés, c'est les forgerons qui... C'est une race, enfin, c'est un caste. C'est tellement long, je ne peux pas expliquer ça en une demi-heure. C'est très long et c'est très complexe. Là, vous allez demander aux cinéastes et aux écrivains de vous expliquer.
Mais en bref, quand même, chaque caste a effectivement un rôle social à jouer dans la société. C'est ça qu'on peut dire. Ils ont des tâches et des devoirs.
Bien sûr, ils en ont des tâches et des devoirs. Par exemple, si on peut parler, moi, je ne suis pas... d'une famille royale. Je ne suis pas princesse ni reine. Je ne viens pas d'une famille royale. Parce que les familles royales cherchent la prière chez nous. On doit les bénir. Alors nous, on est détachés de ces histoires de roi et de reine. On doit bénir ceux qui sont ceux qui sont en trône, en quelque sorte. Alors ils cherchent la bénédiction chez nous. Alors.
Et quand tu dis que ta famille est d'une famille noble, ça veut dire qu'elle détient un pouvoir particulier dans la vie d'un village, d'une région?
Oui, j'ai deux villages. Titre foncier qui n'appartient pas à l'État sénégalais. L'un se trouve au Fouta, qui est Diatar, 5 km de Podor. Et l'autre se trouve en Casamance, qui est Banger, à côté de Tanaf, qui appartient à Chérif Younous, le grand-père de ma maman.
Donc tout au nord et tout au sud?
Tout au sud. Alors, je suis typique sénégalaise.
C'est ce mélange-là, le Sénégal.
Oui, c'est un mélange de Sénégal. Parce que le côté nord, c'est les Peuls, les nomades, les Toupouleurs et les Serères qui étaient là avant et tout ça. Bon, ça fait un métissage. Que le Fouta est bien métissé. Du côté du nord, il y a quand même beaucoup d'ethnies africaines qui sont là. C'est-à-dire, il y a les Diola, il y a les Mandeng, il y a les Soninké, il y a les Hassunké. Il y a enfin beaucoup de races. Il y a les Mandiak qui sont du Guinée-Bissau, des Balantes et tout ça, parce que c'est à côté de la frontière de Guinée-Bissau. Alors c'est ça le mélange du côté sud.
Et alors, dans ta famille, est-ce qu'il y a un mode de vie particulier parce qu'on appartient aux nobles? Et quel était le sort donc destiné à la jeune fille que tu étais? Tu dis, j'ai eu de la chance, enfin, où j'ai pas pu épouser les trois cousins qu'on m'avait donnés sur mon berceau quand je suis née.
Alors, oui. Parce que je suis d'une famille, si et Aïdara, alors moi je ne dois pas danser dans la rue, je ne dois pas danser quand il y a la fête, je dois avoir des gens qui dansent pour moi. Je ne suis pas reine, hein, ni princesse, et je ne dois pas parler à haute voix quand il y a du monde. Quand je suis dans la maison, si je parle, les gens qui sont à côté ne doivent pas entendre. Il y a ça comme éducation qu'on doit recevoir. Et prier à l'heure de la prière et prendre le chapelet avant l'âge de 30 ans. Alors moi, j'ai encore bientôt 41 ans, je n'ai pas encore pris le chapelet.
Qu'est-ce que ça veut dire, prendre le chapelet?
Ça veut dire, après la prière, faire quelques versets du Coran en plus. Pour tes morts, ou bien tes voisins, ou tes amis, et tout ça. Et te bénir toi-même.
Et en plus de tout ce que tu viens de nous dire, quel était le rôle, la tâche que la jeune fille, les règles auxquelles la jeune fille doit obéir dans ta famille, elle doit accepter les mariages qu'on a arrangés pour elle. Et ça, tu as refusé.
Mais ça, tu ne dois pas penser à refuser ça. C'est comme si tu déshonorais tes parents. C'est comme s'ils n'avaient pas de parole. Il faut accepter. Et moi, je n'ai pas pu accepter. Parce que je me dis, un lit, c'est tellement étroit. Ça ne peut pas faire plus de 2 mètres. Et si tu dois dormir avec quelqu'un, il faut savoir qui c'est. Quand tu te réveilles la nuit, il faut savoir qui tu rencontres. Ça, je ne peux pas accepter de faire ça avec n'importe qui.
Mais cette idée-là, Oumou, comment elle t'est venue? C'est peut-être un peu simpliste comme question que je te pose, mais la plupart des jeunes femmes africaines qui sont confrontées comme toi avec les mariages arrangés, souvent elles n'ont pas le choix. Et elles n'ont même pas souvent les moyens de refuser comme toi tu l'as fait apparemment. D'où t'est venue cette énergie pour dire non, je ne peux pas, sous l'excuse que tu viens de donner maintenant?
Enfin, les coups de claque, j'en ai reçu. Et puis de la punition, j'en ai reçu beaucoup. Rassure-toi, ça, j'ai eu ça. Et je te dis, quand j'ai porté mon premier pantalon, j'ai reçu 2 coups de claque, de gifle, en me disant, voyou, tu mets des histoires de blanc, hein, tu mets des habits de 2 pieds, tu vois. Une femme ne doit pas séparer ses jambes. Alors, alors ça, j'en ai reçu beaucoup, parce que quand je vois un modèle, moi, j'essaie de le créer et de le mettre. On était beaucoup de jeunes filles dans la maison, parce que ma maman avait une co-épouse. Et puis celle-là, elle avait des filles, et puis on avait nos cousines dans la maison. On était au moins 7 filles dans la maison qui ont presque le même âge. Et moi, quand il y a une mode, quand je cousais, j'ai commencé quand même à coudre très tôt. Et quand j'avais 13 ans, 14 ans, s'il y a un modèle qui sort dans Mademoiselle Ange Tendre, j'achetais ce journal régulièrement. Et le Salut les copains. Et mes vedettes principales, il y avait Johnny, Sylvie, France Gall.
Donc, ce n'était pas des vedettes africaines, tes préférées à l'époque?
Ah non, je les avais affichées dans ma chambre partout. Et ma tante, en se moquant de moi, elle me disait, toi, si on te donnait Johnny Hallyday comme mari, tu aurais accepté, je dis volontiers.
Même sans choisir.
Même sans choisir.
Il y aurait la place pour lui dans le lit.
Tu vas te perdre, toi. Tu ne vas pas rester en famille. Je sens que tu vas te perdre. Parce qu'une femme, quand tu n'es pas mariée avec ton cousin, comme ça, tu es perdue.
C'est à quel âge que tu as refusé de prendre quelqu'un dans ton lit que tu ne connaissais pas?
11 ans. Parce qu'on devait me prendre à l'âge de 11 ans pour m'emmener chez une de mes tantes, parce qu'elle devait m'élever à ses manières, pour qu'à l'âge de 14 ans, ou quand j'aurais vu mes premières règles, et le mois suivant, d'épouser son fils. Et j'ai fait la grève de faim. Comme je ne suis pas grosse, mon père adoptif, il avait peur que je meure en faisant cette grève de faim. Il a dit qu'il ne veut pas prendre la responsabilité que je meure dans sa maison. Alors on arrête, on attend. Peut-être quand j'aurai 15 ans, je réagirai mieux. Alors on a attendu. On a attendu. Alors j'ai dit, couf, oh, c'est parti. Alors j'ai attendu. Alors, à l'âge de 15 ans, une autre tante qui arrive, tu sais, quand elles viennent avec les calebasses et les choses dans la maison, c'est pour parler de moi aussi encore. Oh là là. Alors, si elles viennent, je songe tout de suite. Je commence à porter malade. Je suis malade, je suis grippée, je ne peux pas. Je fais tout pour tomber malade. Et mon père adoptif, il a compris cela. Il est quand même intellectuel, il est directeur d'école, il a fait l'école, il est moderne, il est enseignant, un éducateur et tout. Et lui, quand même, il prenait part pour moi, parce que c'est mon complice en quelque sorte. J'ai eu la chance de l'avoir d'ailleurs. Parce que ma maman, elle se dit, bon, comme elle est du Sud, elle ne va pas prendre la responsabilité quand même d'accepter ce que je veux. Du moment qu'elle devait suivre la volonté de mon père qui n'est plus vivant. Et elle me poussait vraiment. Elle faisait tout pour me pousser et l'autre faisait tout pour m'aider, quoi. Alors c'est comme ça que j'ai réussi un peu à m'en sortir du deuxième. Le troisième aussi, j'ai fait la même chose. Allez, quand ils sont partis tous, j'ai dit coucou, coucou.
Mais est-ce que tu ne voulais pas aller les épouser parce que tu ne les aimais pas, tu les connaissais, ou bien c'était parce que tu avais déjà choisi autre chose dans ta tête pour ta vie?
J'ai rien choisi, c'est parce que j'ai envie de continuer à travailler avec mes mains. et de réalité des choses. Je sais que si je pars et je me marie avec eux, je n'aurai pas le temps de travailler ni de créer quelque chose qui vient de moi. Je sais que je vais être comme les autres femmes qui sont là-bas dans les villages. Et voilà.
C'est quoi être comme les autres femmes qui sont dans les villages ? Faire des enfants ?
Des enfants, j'en ai fait. J'en ai quand même 5 parce que j'adore les enfants. Quand j'étais petite, je disais j'allais faire 20. Parce que ça, je ne savais pas comment on les sortait. Alors je disais je ferais 20 gosses. Comme ça, ça fera les deux mains, les deux pieds, tous les doigts, je les aurais fait. Alors maintenant, j'ai fait une main, j'ai arrêté quand même. Parce qu'il faut travailler, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Du moment que, bon, moi, je suis un peu quand même pas une femme à accepter hein, des choses. Hein. Parce que je me suis mariée la première fois, c'était un mariage révolté, parce qu'on a voulu me donner un cousin par force cette fois-ci, parce que je suis grande, j'ai 16 ans, il faut qu'on me marie à un cousin forcément. Et je me suis révoltée, je suis allée... trouver un jeune homme qui était amoureux de moi. J'ai dit, voilà, maintenant, on se marie. Même si la famille ne veut pas, on s'est marié sans la famille ailleurs. On a fait notre mariage à la mairie, tout ça, comme les Européennes et tout ça. Alors, c'était un mariage révolté. J'ai quitté la famille, je suis partie. Alors, celui-là, il n'a pas su quand même. Il n'a pas peut-être mérité tout ça parce qu'il commençait à me faire des choses. Il croyait que je n'allais jamais le quitter. Alors il sortait. Ça, je m'en foutais pas mal parce que je n'étais pas jalouse. J'avais confiance en lui et tout. C'était le premier et tout. Je ne me disais pas qu'il allait draguer ou quelque chose comme ça. Ça ne faisait pas partie de mes pensées. Mon seul souci, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé travailler lui aussi. Il voulait que moi je travaille et que je m'occupe de lui, des enfants et tout, etc. J'aurais accepté ça parce que je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Maintenant, je ne l'aime plus parce qu'il m'a poussé à le haïr. Et c'est grave. Et là, quand même, je me suis séparée avec lui un peu pour qu'il voit un peu clair. Et pendant qu'on se séparait, j'étais en état de grossesse, du quatrième quand même. Et il a commencé, je lui dis, de trouver du travail. Sérieusement, il faut travailler. Alors, il est parti, il a cherché du travail. Il travaille dans un charmant. Il est venu, il me dit, bon, je ne travaille plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai arrêté. Je dis, mais pourquoi tu as arrêté? Il me dit, parce que, bon, je ne veux pas continuer. Parce que je vais vieillir en travaillant. Ça vieillit, le fait de travailler trop. Tu sais, c'est un playboy, quoi. Beau gosse et tout. Alors, je dis, ah bon, comme ça, tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux qu'on aille à l'hôtel et puis... pour 2 jours et puis danser. Je dis, après l'argent il va finir, ce que tu as gagné. Il me dit oui. Je dis non, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu gardes une partie et l'autre partie tu gardes comme ton argent de poche. L'autre tu gardes parce que je suis enceinte et je suis en train de travailler. On va avoir un quatrième gosse. Il faut s'occuper maintenant d'élever les enfants. Je n'ai plus envie d'aller en boîte ni d'aller en danser. C'est fini. J'ai plié mes talons, je ne les mettrai plus dans une boîte de nuit. Alors, il n'a pas su comprendre ça. Il m'a envoyé une paire de gifles. Il ne devait jamais le faire. Parce que moi, si on me frappe, c'est fini. Je suis têtue, j'arrête tout. Je ne supporte pas des coups. Ça, je n'ai jamais accepté qu'on me frappe. Alors, depuis ce jour-là, je lui ai dit, c'est fini. C'est le divorce. Il a cru que j'étais en train de jouer comme une petite fille. Il ne savait pas que j'étais grande. J'ai arrêté tout de suite. Il n'a pas voulu divorcer, mais j'ai cherché un avocat. J'ai attendu 3 ans et j'ai eu le divorce. Parce qu'on s'était mariés à la mairie.
Et ça, c'est une chose exceptionnelle pour les femmes africaines, toute ton attitude, le refus des coups, le fait de décider soi-même quand quelque chose, ça va vraiment plus, tu as l'impression de n'être pas respectée, etc. Tu avais une attitude nouvelle, exceptionnelle. Il a été aussi surpris, ton mari, par cette réaction de ta part?
Oui, il a été surpris parce que je suis faite comme ça. Je peux tomber amoureuse de quelqu'un et je te donne tout. Ça, c'était au début, je donnais tout. Et une fois que je récupère tout. Je reprends tout. Maintenant, je ne donne pas tout, je donne un peu. Je garde le reste pour moi parce que je ne peux plus aimer quelqu'un plus que moi-même. Je m'aime moi-même d'abord et je donne un peu pour la personne.